L'enfer, c'est les autres. Astuce pour gérer ce qui est externe. Derrière ce titre provocateur se cache une réalité. Les autres sont de petits grignoteurs insatiables de votre temps. Heureusement, vous pouvez alléger l'écosystème qui vous entoure avec les solutions suivantes, parfois pleines de bon sens et parfois drastiques. Comment ne plus être interrompu ? Commençons par revenir en arrière dans ma vie. Nous sommes en juillet 2012. J'habite simultanément à Hénande et à Paris. Durant cet été, je prends une grande décision. J'arrête de fumer. J'ai un profil d'addict dans tous les domaines et, en cohérence avec cette caractéristique, je fume l'équivalent de 2 paquets par jour, les bons jours, depuis l'âge de 15 ans. Une terrible réalité vient de s'abattre sur moi. J'ai passé autant de jours dans ma vie en tant que fumeur qu'en tant que non-fumeur. Je ne supporte plus l'odeur de mes doigts. Mais c'est mon buraliste parisien qui a véritablement déclenché mon envie d'arrêter de fumer. Ce buraliste me méprisait complètement, m'obligeant à patienter longuement lorsqu'il parlait avec ses amis, ne se réapprovisionnant qu'une fois sur deux de la marque que je prenais, alors que je venais chaque dimanche matin acheter la même quantité. Mais je courbais l'échine. J'acceptais que ce dealer de nicotine m'humilie. C'était la seule personne au monde qui pouvait se permettre d'agir comme ça avec moi et je ne le supportais plus. Aujourd'hui, je lui suis tellement reconnaissant. Il a été mon point de départ dans ce combat pour arrêter la cigarette. Chaque matin, le manque est terrible. Imaginez-vous que durant 15 ans, j'ai enchaîné jusqu'à 3 cigarettes dans les 20 premières minutes qui suivaient mon réveil. Pour tromper mon cerveau, le beau temps de la côte atlantique aidant, je décide d'aller courir dès le réveil. Je saute de mon lit, pas de douche, pas de petit déjeuner, je pars faire 5 km sans réfléchir. Mais j'ai réfléchi malgré moi. Au détour d'un virage, j'ai croisé, dans leur voiture, des amis du village d'à côté, et je me suis arrêté pour leur parler à peine 5 minutes. J'ai eu toutes les peines du monde à me remettre à ma course. J'avais pourtant couru moins de 2 km. Une fois la motivation retrouvée, disons plus simplement que je me suis mobilisé à contre-cœur, il m'a fallu un nouveau temps de chauffe pour enfin trouver mon souffle, mettre mon corps en mode automatique et pouvoir avoir le bon mental. Alors que je mettais en général 40 à 50 minutes pour faire 5 km, il m'a fallu ce jour-là 1h30. 1h30 alors que je ne m'étais arrêté que pour parler durant 5 ridicules petites minutes. C'est ce jour-là que j'ai compris le danger des interruptions dans ce que j'entreprenais chaque jour, chaque minute. La leçon douloureuse que je venais de prendre dans cette salutaire course matinale devait s'appliquer à mon esprit et à ma concentration en général. C'est évidemment le cas, mais je crois que, tant qu'on n'a pas vécu cette sensation dans son corps, on n'imagine pas réellement ce qu'on inflige à son cerveau en se laissant manipuler par toutes les sources d'interruption qui nous entourent. Autant dire tout dans l'époque où nous vivons. Vous le savez sûrement en théorie, mais avez-vous une méthode pour rester concentré dans votre quotidien? Dites-vous qu'à chaque fois que vous vous laissez interrompre, vous arrêtez un sportif en pleine forme pour discuter avec lui. Le temps qu'il lui faudra pour finir sa course sera ensuite 2 fois plus long que prévu. Vous connaissez les dangers qui nous entourent. Voici donc les règles à mettre en place pour les éviter. En récompense, pas de trophée, mais un gain de temps d'environ 1/3 de votre temps habituel. Sur une journée de 9 heures, vous allez libérer jusqu'à 3 heures. Votre chemin pour devenir maître du temps semble plus accessible que jamais. Le téléphone, fixe ou portable. Vous allez considérer différemment votre téléphone. J'insiste dessus car c'est le point que j'ai le plus de mal à faire changer chez les personnes que je conseille. Notre cerveau ne sait pas, et ne peut pas, gérer la pression d'un non qui s'affiche sur l'écran. Comme si nous avions peur que la personne nous voit en train de refuser son appel. Cette méthode va vous aider à n'être joignable que lorsque vous êtes vraiment disponible. Elle fonctionne pour l'écrasante majorité de la population. Néanmoins, si votre métier nécessite une astreinte particulière ou une réactivité d'urgence, il est évident que vous ne pourrez pas vous passer d'être joignable. Votre fonction place dans ce cas votre disponibilité dans la case « Important, urgent ». Voici la solution que je propose à tous ceux qui peuvent se permettre de ne pas être accessibles dans l'instant pour raisons vitales. Première étape. Éteignez votre téléphone dès que vous commencez une session de quelque chose, professionnel ou personnel, et décidez du moment où vous le rallumerez. Méthode radicale, mais je vous recommande de commencer votre sevrage par là. Vous n'êtes plus joignable. Plus aucune excuse. Vous devrez ensuite rapidement passer à l'étape suivante. Deuxième étape. L'inconvénient de la première étape est lié à son premier avantage. Si la tâche que vous accomplissez vous demande de joindre une personne par téléphone, vous n'êtes plus en mesure de le faire. Pire, quand vous rallumez votre téléphone, vous vous prenez violemment l'arrivée simultanée des appels en absence et des messages de votre répondeur. Dans la deuxième étape, je vous propose de laisser votre téléphone allumé, mais de couper la sonnerie et le vibreur. Posez le téléphone près de vous, mais à l'envers pour ne pas voir l'écran. Si vous avez un téléphone fixe, débranchez-le comme pour la première étape et passez rapidement à la troisième étape. Troisième étape. On touche la bonne solution du doigt. Sur votre téléphone portable, laissez le message suivant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Vous laissez votre nom. Je ne suis pas disponible pendant une période non définie. Je vous recommande de m'envoyer un SMS ou un mail directement sur ma boîte mail, boitemail@site.com. Si vous laissez néanmoins un message, merci de me dire l'objet précis de votre appel. C'est en substance le message de mon répondeur actuel. Vous allez voir comme les gens de votre entourage personnel et professionnel vont vite s'y habituer. Vous n'êtes jamais joignable. On vous enverra la plupart du temps un SMS ou un mail que vous pourrez lire quand vous le déciderez. Vos interlocuteurs iront plus rapidement à l'essentiel, seront souvent plus complets dans leurs messages et vous ne pourrez pas oublier ce qu'ils ont dit puisque le mail sera toujours à disposition dans votre dossier d'archives. Vous allez aussi découvrir la joie de ne plus recevoir sur votre répondeur de messages de 30 secondes sans contenu précis, terminant finalement par « Rappelle-moi s'il te plaît ». Pour votre téléphone fixe, c'est encore plus simple. Renseignez-vous sur Internet pour faire un transfert d'appel vers votre téléphone portable et débranchez-le définitivement. Il n'est plus possible d'accepter qu'un appareil puisse vous harceler quand bon lui semble jusqu'à ce que vous craquiez. Rendez-vous ce service, débranchez-le et mettez-le au recyclage. Ne soyez plus disposé à entendre votre téléphone sonner à n'importe quel moment. Ne prenez du temps pour cette tâche que lorsque vous le décidez. Les ordinateurs. Alors, après avoir analysé scrupuleusement toutes les applications et logiciels que je peux utiliser, le verdict est clair. Aucun programme informatique ne mérite d'avoir le pouvoir de me déranger. Qu'il s'agisse des SMS, mails, réseaux sociaux, applications bancaires, jeux, etc. Vous devez désactiver toutes les notifications sonores, y compris le mode vibreur, pour laisser au maximum les notifications visuelles discrètes. Rien qui surgisse sur votre écran, mais simplement un chiffre qui se met sur votre application pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle information disponible. Mais c'est là une première étape. Vous pourrez ensuite vous en passer. Vous verrez ce qu'il y a à savoir lorsque vous utiliserez l'application, tout simplement. Avez-vous vraiment besoin de savoir qu'il y a eu un nouveau like sur une de vos photos? Vous ne pourrez jamais être vraiment à jour de ce qu'il fallait absolument voir. Libérez votre esprit de cette non-tâche qui consiste à regarder ce qui vous est notifié. Supprimez toutes les notifications sonores ou bondissantes de votre ordinateur. Les personnes. Comment ne pas se faire interrompre? Le plus simple est d'être seul. Mais je ne vais quand même pas vous demander d'aller vivre sur une île déserte. Vous pouvez déjà stipuler aux autres personnes, dans votre vie professionnelle ou personnelle, de ne pas vous déranger lorsque vous êtes au cœur d'une activité. Vous pouvez aussi utiliser la technique des écouteurs ou du casque audio. Expliquez la règle simplement. Lorsque vous l'avez, personne ne doit vous déranger. Même si, en réalité, vous n'écoutez peut-être pas de musique. Le casque aura toujours l'avantage de réduire les bruits extérieurs et de donner un signe visuel de votre non-disponibilité. Convenez d'un code visuel avec votre entourage, signifiant que vous ne voulez pas être interrompu. Rompre avec vos relations parasitantes. C'est un des points sensibles de ma vie et de ce livre audio. J'ai longuement hésité à aborder cet aspect de mon quotidien, mais, par honnêteté envers vous, je me dois de le faire. D'une part, parce que je vous ai promis de vous donner toute ma méthodologie philosophie, d'autre part, parce que ce principe m'a fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, tout en allégeant ma charge mentale. Certaines personnes avec qui j'ai partagé des bouts de vie, et qui m'en veulent probablement, se reconnaîtront dans ces mots. Puissent-elles comprendre mon point de vue ? Il y a trois types de relations qui dévoreront votre temps, toutes catégories confondues, dans votre vie. Les relations faibles. Avec des personnes avec qui vous n'avez que peu d'échanges, mais que vous supportez par politesse sans savoir pourquoi. Les relations persistantes. Avec des personnes avec qui vous avez été amis, mais dont la philosophie de vie est aujourd'hui incompatible avec la vôtre. Ces relations sont identifiables au fait qu'elles ne vous apportent rien humainement, même plus de joie, et au fait que vous ressentez un sentiment d'obligation. En général, vous ne faites que donner, tant de l'énergie, des services, de l'écoute, et il est compliqué de dire non. Les relations vampirisantes, avec des vampires donc, ces personnes qui n'ont jamais été des proches ni des amis, mais qui, par le hasard de la vie, vous connaissent. Ils ne se manifestent que pour vous prendre ouvertement quelque chose, vous prenant tantôt pour un psy, tantôt pour un conseiller privé dans votre domaine de compétences, ou encore pour leur entremetteur professionnel, etc. À ce stade, je sais que vous avez déjà des noms qui vous traversent l'esprit. Il faut malheureusement passer par la phase douloureuse de couper avec toutes ces personnes. Attention, je n'ai pas dit avec certaines de ces personnes, mais avec toutes ces personnes. Cela vous semble peut-être impossible, mais je suis passé par là et je peux donc vous faire un retour d'expérience. Mieux, j'ai pu aider des proches à en faire autant et constater que la méthodologie ne décevait jamais. Elle dépend évidemment du genre de relation. Dans 100% des cas, vous ressentirez quelques semaines plus tard une sensation d'allègement, comme si la vie était plus facile, plus joyeuse. Vous aurez supprimé une énorme charge mentale et chronophage. Les relations faibles. Rompre avec une relation faible nécessite juste de gagner un peu en assurance et d'accepter que l'on vous aimera peut-être moins. C'est encore une fois ce voisin que vous n'appréciez pas trop et qui vous parle tous les jours pendant 20 minutes, mais qui ne connaît rien de vous car il ne vous laisse jamais parler et qu'il part une fois qu'il a fini de se déverser. C'est ce fournisseur dans votre boulot qui vous parle comme à un pote pendant 10 minutes avant de répondre à la question que vous lui aviez posée par mail avant. Bref, ce sont ces relations négatives du quotidien. Vous devez accepter de les arrêter, refuser de les écouter en le verbalisant et ou en partant. Vous allez vous rendre un grand service. Et ne vous en faites pas pour eux. Ils trouveront d'autres cibles, comme lorsqu'ils ne vous connaissaient pas encore. Gain de temps assuré et émotions négatives ressenties réduites. Les relations persistantes. La plus compliquée des ruptures est celle avec ce type de relation. Bien souvent, ces personnes ont partagé beaucoup de belles choses avec vous par le passé. Mais le problème, c'est que c'est le passé, justement. La vie a changé pour vous ou pour elles. Vous n'avez plus la même philosophie de vie. Mais les liens d'avant sont restés une illusion, que vous êtes peut-être le seul à ressentir. Ces relations s'arrêtent parfois en cas de clash. C'est ce qui s'est passé par deux fois dans ma vie. Un clash a rompu le peu de lien vraiment amical qui restait et, malgré une tentative de sauver les vestiges d'une chouette relation, je me suis rendu compte que nous n'avions pas, plus, la même philosophie de vie. Alors, je suis resté sur ce qui avait été initié par le clash en laissant la relation s'arrêter. Aucune animosité envers personne, au contraire, mais j'avais l'impression de donner en permanence. Quand je dis donner, ça peut être des conseils, des choses matérielles, des connexions vers des relations, du savoir-faire ou tout simplement du temps. Des heures passées au téléphone en faisant des pirouettes souvent malhabiles pour éviter de se voir sans raison, juste pour se voir. Parfois, il n'y a pas de clash, pas de véritable raison. Mais l'amitié s'est amoindrie, vous vous êtes éloigné. Il est à noter que la relation amicale a un inconvénient par rapport à la relation amoureuse. On ne peut pas rompre. Sommes-nous engagés pour une vie entière? Je vous assure que non. Alors rompez lorsque c'est nécessaire, mais comme ça n'est pas dans les mœurs, vous serez jugé. Est-ce si grave? D'anciennes relations amicales pensent sûrement que j'ai un excès d'ego ou que j'ai oublié d'où je venais, ou encore que je ne suis pas reconnaissant. Bref, que j'ai changé. Pourtant, rien de tout ça. Simplement une relation amicale non épanouie. Je vous recommande d'arrêter ces relations déjà terminées qui vous prennent tellement d'énergie et surtout de temps. Ne craignez pas le jugement qu'il y aura ensuite. N'ayez pas peur qu'une personne ne vous aime plus. Vous n'avez pas le time pour ce genre de considération. Plein de merveilleuses choses vous attendent grâce à la charge mentale que vous économiserez. Je suis entouré aujourd'hui de personnes qui correspondent pleinement à qui je suis vraiment. Baptiste, à jamais mon meilleur ami, que je connais depuis l'âge de 2 ans et demi, et on se surprend à se voir une fois par an avec un plaisir intense. Marie, Charline et Bertrand, que je connais depuis 2002, Terence rencontrée en 2007, Philippe rencontrée en 2009, etc. Je ne pourrais citer tout le monde, mais toutes ces personnes ont un point commun. Elles respectent mon rythme, disons énergique, et mon planning toujours optimisé. Je ne ressens jamais aucune pression de leur part, aucun jugement, aucune attente. Voilà pourquoi je serai toujours présent pour eux. En lisant ce paragraphe, des noms vous sont venus à l'esprit, des souvenirs de moments à attendre au téléphone que la personne termine, ou des moments où vous lâchiez un souffle résigné en calant un de ces rendez-vous dans votre agenda. Prenez votre courage à deux mains et rendez-vous ce service. Dur, mais indispensable. Je vous promets que le soulagement qui suivra est incomparable. Les relations vampirisantes. Les pires relations. Souvent des gens sympathiques, mais que vous ne voyez dans votre vie que pour leur donner quelque chose. À chaque fois qu'ils vous contactent, c'est pour obtenir un conseil, un service, un avis, un prêt, un numéro de téléphone, etc. Ils ont créé le lien qui vous unit, mais sans vous demander votre avis. Et bien sûr, ils disparaissent régulièrement jusqu'à avoir de nouveau besoin de vous. Bizarrement, vous vous traînez ces personnes qui grignotent à tour de rôle votre temps depuis des années sans rien faire. Pestant contre eux quand ils ne sont pas là, mais toujours souriant en leur présence. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne me le suis jamais expliqué non plus. La méthode est simple. La prochaine fois qu'ils vous appellent, passent vous voir ou vous textotent, vous devez leur dire. C'est aussi basique que cela. Un copain magicien m'appelait beaucoup pour me lire ses textes, entièrement, et pour me demander des conseils pour ses projets ou des contacts dans le théâtre. Mais nous n'avions jamais rien partagé réellement, pas même un repas ou un verre sans raison. Je lui ai donc expliqué un jour au téléphone que je n'avais malheureusement plus de temps pour lui dans ma vie, calmement et sans reproche. Il l'a compris, et vous savez quoi ? C'est toujours un plaisir de se croiser encore aujourd'hui, à la différence que je ne paie plus de mon temps par la suite. Voilà sûrement un chapitre que vous n'attendiez pas dans ce livre audio. Mais à chaque fois que j'ai pu coacher des personnes sur la gestion de leur temps, tous m'ont avoué que cette étape était la plus dure, mais était la plus rentable en temps et en charge mentale. Les relations humaines sont l'essence de nos vies. Entretenez-les comme un jardin, semez, plantez, taillez, élaguez. Vous êtes la seule personne responsable des types de relations que vous gardez. Téléphonez de manière utile. Vous passez du temps avec votre famille et vos amis au téléphone ? Formidable ! Vous allez continuer exactement de la même manière, c'est une bonne nouvelle. Prenez le temps de réécouter le chapitre sur la concentration et vous allez comprendre pourquoi il est scientifiquement indispensable que vous fassiez votre ménage en même temps. Commencez par investir dans un casque ou des écouteurs confortables, si possible sans fil, équipé d'un micro. Lorsqu'une personne vous appelle et que vous savez d'avance qu'au minimum 10 minutes vont s'écouler, équipez-vous de votre matériel main libre avant même de décrocher. Dès que la conversation commence, vous allez entamer votre ménage. Vaisselle, ménage quotidien, nettoyage des sols, laver votre linge, l'étendre ou le plier, nettoyer en profondeur quelque chose comme votre réfrigérateur ou frigo, faire vos poussières, etc. Vous allez optimiser votre concentration pour écouter la personne au téléphone et lui parler, tout en vous libérant de votre temps de ménage. À titre personnel, je ne pense pas être un accro du téléphone. Je dois y passer rarement plus d'une heure et demie par semaine pour les conversations longues, c'est-à-dire des conversations supérieures à 10 minutes. Mais je fais systématiquement mon ménage quotidien en même temps. Des tâches qui devront être faites quoi qu'il arrive. Je me libère donc de plus d'une heure de temps pur consacré au ménage par semaine, soit plus de 2 jours par an. Et sans avoir à me priver des conversations au téléphone avec mon entourage. Bonus professionnel, cette astuce fonctionne aussi bien chez vous qu'au bureau pour du nettoyage ou du tri. Pas de contre-indication non plus pour nettoyer votre voiture dans votre garage. Vous pouvez aussi appliquer cette astuce pour vous rendre à pied à un endroit qui était prévu, faire une course, aller poster du courrier, etc. Une double tâche téléphonique, ne parasitant pas votre conversation, sera toujours rentable à 200%. C'est mathématique. Imposez votre géographie. Cette astuce peut obliger à un changement de vie. Je la teste depuis 4 ans et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans mon quotidien. Habiter en rez-de-chaussée ou en rez-de-jardin. Évidemment, cela m'a valu un déménagement, Mais auparavant, je passais chaque jour environ 5 minutes dans les étages. Si je ne sortais qu'une seule fois par jour, donc un aller-retour dans les étages me prenait 5 minutes. En considérant donc un aller-retour quotidien à l'extérieur, je passais 35 minutes par semaine à me déplacer dans un bâtiment. Inadmissible quand j'y repense. 2 jours, 6 heures et 20 minutes par an. Que ce soit de manière productive ou pour le plaisir, je connais d'innombrables façons de mieux dépenser plus de 2 jours sur une année. Personnellement, j'ai poussé le concept jusqu'à prendre mon logement en rez-de-chaussée ainsi que mes bureaux professionnels, le tout dans la même rue. Je mets 21 secondes de la porte de chez moi à la porte du bureau. Avec le temps gagné dans les étages et les transports, plus d'une centaine d'heures par an. Je peux presque écrire un livre entier. Vous savez donc maintenant comment j'ai pu me mettre à écrire des livres sans prendre sur mon temps personnel. Prenez le temps que vous passez dans les transports chaque jour. Rationalisez l'ensemble sur une année, pensez à enlever vos 5 semaines de congé et voyez si l'énergie d'un déménagement ne vous ferait pas gagner quelques semaines sur les prochaines années.